Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs autour d'un fait culturel majeur, la cuisine. Au menu de ce dimanche, bien sûr, une madeleine aux alentours de midi et quart, une madeleine préparée comme chaque dimanche par Matteo Caranta, à qui l'astrophysicienne Françoise Combes a confié son souvenir gustatif. Et tout de suite, un plat du jour. Aujourd'hui, une préparation liquide ou onctueuse que beaucoup considèrent comme le supplément d'âme du cuisinier. Nous allons parler des sauces.
Je veux que deux sauces de deux textures différentes deviennent d'une harmonie absolument incroyable pour arriver à un étirement, à une plénitude et une évidence de plaisir.
La sauce, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est, je pense, l'épreuve la plus dure de tout Top Chef.
La sauce, il n'y a pas de fiche technique, il n'y a pas de recette en fait. C'est vraiment le feeling entre le cuisinier et tous les éléments qui l'entourent, quoi. Ça va être compliqué aujourd'hui, très compliqué.
Vous êtes prêts? Bonne chance, on va se régaler.
On va se régaler, mais ça va être compliqué. La sauce, c'est la parure et l'honneur de la cuisine française, disait le critique gastronomique Kurnonski. Et le chef Yannick Aleno la considère comme le verbe de la cuisine française. Traditionnellement, c'est la rencontre entre un fond et un roux. J'aime beaucoup cette expression. Certains cuisiniers, comme notre invité, composent des sauces comme un parfumeur. Comme un parfumeur crée ses assemblages. C'est dire combien, à rebours de l'image désuète de la pauvre sauce béchamel, la sauce est encore la quintessence de la cuisine française. Arnaud Donquel, bonjour. Arnaud Donquel, bonjour. Bonjour à vous. C'est vous la voix qui demande deux sauces aux candidats de Top Chef qui sont stressés à cette demande puisque ça va être assez compliqué. On verra ça tout à l'heure. Vous êtes le chef triplement étoilé de la Vague d'Or à Saint-Tropez. Vous avez été élu cuisinier de l'année 2019 par le Goemio. Et vous vous considérez davantage comme un saucier que comme un cuisinier. Vous nous expliquerez ça. Vous partagez votre amour des sauces avec notre second invité, le journaliste Louis Jeudy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous faites paraître ces jours-ci chez Argol, Sauce, au pluriel, un livre qui se présente à la fois comme un cri d'alarme, un amour des sauces, un appel au retour des sauces faites maison. Et c'est aussi ce que nous allons voir au cours de cette émission. Louis Jeudy, pourquoi un journaliste culinaire comme vous s'intéresse-t-il aux sauces ?
Parce que je pense que la sauce, comme vous l'expliquiez en introduction, est vraiment ce qu'on peut considérer comme l'essence de la cuisine. Quoi. C'est vraiment, à travers la sauce, le cuisinier exprime vraiment sa singularité.
C'est ce que vous pensez, Arnaud Donquel ? Pas de bon plat sans sauce ?
Oui, complètement. Je pense que, en plus, c'est la profondeur de la culture de la cuisine française passe par la sauce. Et je pense que ça, c'est pour nous, c'est très important culturellement. Et la sauce est quelque part l'enrobage de la matière pour atteindre l'émotion.
Oui, mais alors l'enrobage de la matière, ça peut contredire l'idée selon laquelle la sauce serait un révélateur de goût. Ce qu'on peut considérer quand même, c'est d'ailleurs souvent ce qu'on dit, que la sauce masque un mauvais plat, voire réduit le goût du produit, Arnaud Donquel. C'est ce qui est vrai par exemple pour la sauce d'un poisson. On peut manger un poisson cuit au four, il aura plein de goût. Si vous mettez plein de sauce, il n'aura plus de goût le poisson.
Alors oui, alors ça dépend aussi comment on relève le poisson. Évidemment, si vous faites une sauce d'une certaine puissance avec un poisson non saisi, parce que le révélateur aussi de la matière, comme le poisson, si vous avez une sauce intense, effectivement, il faut éviter de faire un poisson vapeur. Parce que par les sucs du poisson, on peut aussi relever naturellement le goût du poisson ainsi qu'une viande. Donc effectivement, il faut aussi adapter. C'est là où a été le concours dans Top Chef, où j'ai eu un saucier absolument remarquable qui malheureusement a été deuxième parce que il n'avait pas révélé la matière. Ça étouffait la matière. Évidemment, on peut faire des grandes sauces, mais c'est pas au dépens du produit. C'est pour relever le produit. C'est pour lui amener à une espèce de forme de quintessence absolue.
Oui, je dis.
Pour faire une sauce, en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher en fait les goûts profonds qui sont dans le produit. Et dans ce cas-là, on n'est pas du tout sur un élément de masquage, mais au contraire, on va chercher la profondeur gustative du produit pour la rendre en fait et pour rendre hommage au produit qui est préparé en fait. C'est tout le contraire d'un élément de masquage. Et ce côté un petit peu cette façon de cacher le produit dont vous parlez, c'est aussi une réalité dans certaines cuisines. Et comme j'explique dans le livre, c'est aussi lié au fait que depuis un certain nombre d'années, dans énormément de restaurants, se sont multipliés les sauces issues de l'industrie, en fait, qui viennent de matières complètement atomisées, de petites poudres, et qui sont parfois utilisées pour cacher peut-être une matière première qui n'est pas forcément d'excellente qualité et qui nuisent en fait à l'image de la sauce.
Vous dites qu'on les retrouve même, ces sauces qui sont des sauces industrielles, qu'on les retrouve dans des grands restaurants. Alors peut-être pas le vôtre, Arnaud Donquel, parce que vous les faites vous-même, mais vous avez appris, Arnaud Donquel, on vous a formé à faire des sauces maison.
Oui, oui, et très jeune, parce que j'ai eu la chance d'être près de mon papa, qui était un charcutier traiteur et qui avait le goût des gelées, donc la gelée déjà une sauce hein, en soi, les bouillons pour cuire les jambons, les bouillons pour assaisonner la première base qui apporte à des saveurs. Et les sauces, c'est quand vous commencez un peu le métier, le poste dans une cuisine où d'un seul coup il se passe quelque chose vraiment de fort, où on dit la responsabilité quelque part de la cuisine, c'est le chef saucier. Et on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir le faire le tour d'une cuisine pour atteindre ce poste-là au bout de 3-4 ans dans une maison. Et c'est une fois qu'on a atteint ça, on se dit waouh, c'est un peu le graal du savoir, quoi. Vous voyez qu'on n'a pas assez d'une vie pour le maîtriser, on est bien d'accord.
Le graal du savoir, et pourtant manifestement le savoir-faire saucier est menacé, en tous les cas le fut. C'est un peu ce que pense le chef Yannick Aleno. Il s'exprimait dans l'émission d'RFI Le Goût du Monde en 2019 à propos de l'hégémonie des sauces industrielles. D'où cela vient-il? Écoutez-le.
En 1990, on a eu un phénomène assez particulier, que tout le monde a connu, de notre génération en tout cas, c'est la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe a été le coup d'arrêt saucier en France. Pourquoi ? Parce que grosse crise économique, les hôtels étaient les derniers protecteurs, je veux dire, de cette partie qui était la sauce. Donc il y avait un grand chef saucier, des chefs de partie, des commis, des apprentis. Et puis, est arrivé ce moment-là et l'économie des hôtels était très dure. Moi, j'ai vécu le truc. On nous demandait, vous voulez rester ou partir? Il n'y avait plus de travail. Et donc, les compagnies françaises ont demandé à une nation spécialiste de cost killer en Angleterre. Et les Anglais sont venus avec leur culture un peu limitée en termes de cuisine de l'époque. On dit, mais les sauciers, finalement, ça sert à rien. Vous enlevez tout ce pan de votre organisation et vous verrez, vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Alors, ça a été le cas, certes. Mais par contre, on a perdu beaucoup. Et là, on a vu arriver, on se souvient certainement, les traits de balsamique dans les assiettes réduites, le début de l'industrialisation. Il était temps qu'on se remette au boulot.
Voilà une des choses qu'on apprend en lisant votre livre Sauce Louis Jeudy. De drôle d'histoire, hein. C'est très surprenant quand même d'apprendre qu'en fait l'industrialisation de la sauce est liée à la guerre du Golfe.
Oui, effectivement, oui, et comme le rappelle bien Yannick Aleno, la sauce, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps en fait. Les techniques de la sauce, ça incarne vraiment le temps long, comme j'écris dans le livre, le temps long de la cuisine, et donc ce temps implique quand même un minimum d'argent pour à la fois acheter la matière première et puis surtout s'attacher les services de gens qui maîtrisent en fait ce savoir-faire. Et donc cette crise économique, elle a conduit à une forme de dépérissement de ce savoir-faire qui est pourtant un peu le marqueur qui fait l'identité de la gastronomie française.
Dans l'identité et dans l'histoire justement du temps long de la sauce, il y en a une dont vous rappelez l'histoire dans votre livre Louis Jeudy. C'est peut-être la plus fameuse des sauces, celle qui aujourd'hui malheureusement n'a plus très bonne presse. C'est la sauce béchamel. Et alors on apprend dans votre livre que cette béchamel a une histoire du nom d'un financier. qui était aussi un maître d'hôtel, le maître d'hôtel de Louis XIV.
Tout à fait. Le marquis, c'était le marquis de Béchamel qui en fait c'est un cuisinier qui a donné le nom qui a nommé la sauce Béchamel en l'honneur d'un marquis qui était un riche financier de l'époque qui s'appelait Monsieur.
Oui, Béchamel de Nointel.
Voilà, tout à fait. Et puis après un peu plus loin, on a aussi la sauce Soubise qui a aussi nommé en l'honneur d'un grand homme de l'époque. D'un noble qui était aussi un amateur de cuisine et c'est intéressant de voir qu'au fil de l'histoire dans la cuisine française souvent on a nommé des sauces en l'honneur de personnalités importantes en fait de l'époque quoi.
D'ailleurs, signe de l'importance. Oui, vous faites toute une liste de sauces, alors je ne sais pas laquelle à part la sauce béchamel, il y en a tout un paquet qui est dans votre livre mais dans ces sauces qui sont référencées dans votre livre, où je dis, il y en a quelques-unes qui sont fondamentales, j'ai envie de dire. On apprend qu'il existe des sauces mères. Alors, c'est une évidence pour vous, c'est une évidence pour le cuisinier qui est Arnaud Donquel. Est-ce que vous pouvez nous dire, Arnaud Donquel, ce que sont les sauces mères, dont d'ailleurs fait partie la béchamel?
Les sauces mères, c'est les premières sauces, hein, comme les fonds. Les fumées, c'est celle de d'où peut partir les dérivés en fait. Souvent, ce sont il y a des bases à cuisson longue et la sauce mère, c'est celle où on le voit beaucoup dans les écrits d'Escoffier où on va pouvoir avoir des dérivés dus à ça, comme une hollandaise, une béarnaise, une sauce mantua, voilà. Tous ces dérivés de sauce se construisent sur une base de sauce mère. Donc, ce qui est très intéressant, du travail de Louis, c'est l'évolution de la sauce. L'évolution est devenue l'apanage de la légèreté. On peut être saucier tout en amenant de la légèreté maintenant. C'est ça qui est intéressant.
Ce qui est une forme de renversement dans l'histoire de la cuisine.
Complètement. Et moi, je dirais même que quelque part, on pratique plus même les fonds. C'est quelque chose qui devient de plus en plus. Ça reste une grande technique de la cuisine française, mais il y a quand même un bouleversement de la cuisine qui s'est développé sur les goûts, sur les forces. Et donc les fonds commencent un peu à disparaître de nos cuisines pour des jus rôtis comme on pourrait retrouver un petit peu à la maison, celui que vous faites avec un poulet autour d'une volaille au four où vous allez mettre les échalotes, l'ail, le thym, une noisette de beurre et puis ces sucs qui sont autour de cette porcelaine ou terre cuite faïence au four. Vous la déglacez avec un peu de vin blanc et naturellement vous obtenez un jus. Ce jus de ménagère qui aujourd'hui est, je pense, le plus direct et une sorte de quintessence. Vraiment une force du gnac qui peut remplacer tous les meilleurs garums du monde.
Les meilleurs garums, parce qu'on en parle du garum, le garum romain, qui est cette sauce, Louis Jeudy, qui a traversé à la fois les âges et les cultures, qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, sous la forme du nwok mam chinois.
Exactement. Il me tenait à cœur aussi, dans l'ouvrage, de montrer, bien sûr, l'importance de la sauce dans la culture culinaire française, mais aussi d'expliquer à quel point la sauce est une vertu vraiment consubstantielle à toute cuisine digne de ce nom et qui circule en fait dans toutes les cultures culinaires et justement le garum romain qui était en fait une macération de poisson qui fermentait pendant des mois dans des jarres dont il existait des versions même comme on dit aujourd'hui pour le vin millésimé quoi, il y avait différents types de garum etc. Des garums qui s'adaptaient aussi aux différentes cultures au sein même de l'Empire romain et une sauce qui a fini un peu par disparaître en fait de la culture européenne même s'il reste aujourd'hui encore ce qu'on appelle la colature d'anchois en Italie et donc ce garum finalement il existe également sous un autre nom comme vous le disiez la sauce nwok mam finalement c'est le même principe en fait que le garum donc il y a des interconnexions parfois plus ou moins conscientes en fait entre les cultures saucières de la planète.
C'est en mangeant du poulet avec un peu de sauce, que j'ai connu des secrets. Mets du sel, mets du poivre et puis du sel avec un peu de sauce.
Midi 15, dans Les Bonnes Choses sur France Culture, c'est l'heure de la Madeleine. Bonjour Mathéo.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors qui donc vous a confié son souvenir gustatif cette semaine ?
Cette semaine, j'ai rencontré l'astrophysicienne Françoise Combe, médaille d'or du CNRS en 2020. Spécialiste du cosmos, des trous noirs et de la matière noire, Françoise Combe cartographie notre univers et raconte son cheminement dans Trous noirs et quasars aux éditions CNRS. Mais sa Madeleine à elle est bien sur la planète Terre et on peut la goûter sans télescope.
Alors ma Madeleine, ce sont les petits pâtés de Pézenas. Ce sont des petits pâtés très particuliers, on ne le fait qu'à Pézenas. La légende dit qu'il s'agit d'une cuisine, d'un cuisinier indien qui aurait, dans le XVIIIe siècle, préparé ces petits pâtés pour un lord anglais qui était là en vacances. Je ne sais pas si la légende est vraie, mais c'est très exotique. Nous habitions à Montpellier, ma famille vient de Montpellier. Pézenas est à 50 km à l'ouest. Et nous étions pendant les mois de juillet-août en vacances avec mes cousines à Poupian, un petit village qui est à 25 km de Pézenas. Et on y allait en vélo. On y allait en vélo, donc au bout d'une heure et demie, on était à Pézenas. On était libre sur les routes. Les parents n'étaient pas là. On pouvait faire 50 km. Et pour se récompenser tous ces efforts, on allait dans un petit pâtissier qui faisait ses petits pâtés. Mon souvenir, lorsqu'on était, alors on était en vélo, donc on était sur la route avec l'herbe de la route, et puis on ouvrait notre sacré paquet que nous avait donné le pâtissier qui nous l'avait fait réchauffer, et donc on voyait cette odeur de caramel, et puis c'est quand on l'ouvre qu'on a une autre odeur, on a une autre odeur d'agneau. Alors ce sont des petits pâtés qui sont d'hauteur 4 cm, ils sont faits d'une pâte brisée, mais très dorée, et même caramélisé un petit peu, donc c'est croustillant. Ça a la forme d'une bobine de fil, c'est-à-dire que c'est un cylindre, et les bases en haut sont plus épaisses, avec des festons, très jolis à voir. Et à l'intérieur, il y a de l'épaule d'agneau très hachée, avec de la graisse, donc c'est très fondant. Donc il y a d'abord un aspect croquant, et ensuite, il y avait l'agneau fondant et sucré qui coulait dans notre bouche. Je pense que là, c'est la surprise. Hein. On commence à croquer et puis tout d'un coup, arrive quelque chose de fondant et coulant. On avait une vie très, très joyeuse à cette époque-là. Donc ça, c'est une vie insouciante, sans souci. On avait tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc ça revient. Comme on n'en fait qu'à Pézenas, c'est que très souvent à Noël, on va à Montpellier pour voir la famille. À Noël, on a toujours des petits pâtés de Pézenas chaque année.
La Madeleine de Françoise Combe, où l'on voit, Arnaud Donquel, l'importance de l'émotion à chaque fois qu'on passe cette séquence de la Madeleine en hommage à Proust, bien sûr. Et vous vous dites que la sauce a toujours des airs de souvenirs, de voyages dans le temps et d'émotions.
Oui, moi je pense que dans la sauce, effectivement, il y a tous ces critères que vous venez d'énumérer, mais il y a surtout quelque chose qui est assez fort. Je trouve que par le biais de la sauce, on arrive à avoir la profondeur du cuisinier, des équipes, la profondeur émotionnelle de la personne qui est au fourneau. La sauce, c'est vraiment le vecteur qui est le révélateur de la générosité du cuisinier, je trouve.
À ce point, voilà. À ce point.
Oui. Ouais, je pense que c'est... Vous savez, à nos niveaux, je crois qu'on sait tous cuire. Enfin, après, il peut y avoir une irrégularité due à un service un petit peu trop rapide, nos convives qui arrivent un peu trop vite... tous en même temps, qu'on a du mal à gérer, ou une personne qui va être un petit peu moins bien aujourd'hui dans vos équipes, ou vous-même d'ailleurs. Mais grosso modo, on cuit tous le poisson pareil. Logiquement, on est tous censés assaisonner le poisson. Alors rôti, poché, vapeur, voilà. Et après, bon, on a tous une certaine philosophie créative. Mais je trouve que par la sauce, il y a une vraie ADN du cuisinier. La notion de la volonté de donner du plaisir. Et je rejoins complètement le discours de Yannick sur cette cuisine.
Yannick Aleno, oui.
Yannick Aleno qui disait qu'à un moment donné, il y a une mode qui est encore assez actuelle de sauce très réduite, juste un trait, juste. En fait, c'est très moderne parce que ça, c'est quand on suit la modernité des autres pays. C'est-à-dire qu'on crée la modernité en allant chercher finalement des philosophies d'autres pays voisins ou du monde. Et d'un seul coup, on la ramène chez nous et ça peut être un enrichissement comme ça peut être ça peut nous appauvrir en fait. Donc je rejoins complètement l'avis de Yannick où il y a eu cette période qui est encore un peu quand même très marquée malgré tout. Et alors que l'ADN, même pour moi d'un cuisinier et l'aboutissement d'un cuisinier, c'est pas de savoir cuire un poisson. J'espérais qu'au bout de 10 ans, un cuisinier sait cuire un poisson, mais c'est de maîtriser les équilibres des sauces condimentées, des sauces émulsionnées, des sauces veloutées, des bouillons, des consommés, des eaux. C'est une richesse absolument incroyable. Parce que quand vous construisez une assiette avec un poisson, une garniture, quelque part, vous êtes un couturier. Mais un bon couturier de la matière doit, à mon avis, il ne faut pas qu'il oublie que pour qu'il soit bien habillé, il est encore plus agréable avec un joli parfum.
Oui, c'est ça, puisque vous composez, Arnaud Donquel, vos sauces comme des parfums avec notes de tête, notes de corps, notes de cœur.
Ouais,
vous avez intérêt à maîtriser les équilibres, puisque il paraît que vos sauces peuvent contenir 8 à 12 saveurs.
Comme un parfum. Et donc, la recette, comme le disait si justement Alain Chapelle, la cuisine, c'est au-delà des recettes. C'est-à-dire que les recettes ne... En fait, les recettes pour des bonnes sauces, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la matière est complètement irrégulière et que la chose la plus importante pour un saucier, c'est certainement la maîtrise du palais qui dépasse les recettes et qui finalement est le meilleur outil pour maîtriser l'irrégularité de la nature. Et donc... naturellement, on amène à des équilibres dans nos sauces, mais exactement pareil qu'un parfum pour qu'elle devienne un peu enivrante, qu'elle rappelle une espèce de Madeleine de Proust, comme vous le dites tout à l'heure dans le reportage, contemporaine, et qui amène à un équilibre, qui amène à une plénitude des saveurs, un équilibre parfait, jusqu'à un pourcentage assez important de gens qui vont y trouver une émotion assez palpable dans l'enrobage de la matière qu'ils auront choisie.
Et c'est tout ça qui fait une bonne sauce pour vous, Arnaud Donquel.
Oui, je pense. Et je pense que c'est... c'est quelque chose, j'en parle. Aujourd'hui, plus je vieillis, plus je compose d'abord les sauces. Et une fois que j'ai composé les sauces avec mes équipes, je me dis quelle chair de poisson va pouvoir... Quelle chair de poisson va pouvoir aller avec cette sauce? Quelle texture de viande, un rôtissage, quel type de viande, une viande blanche, une viande rouge, Aujourd'hui, j'en suis plus arrivé et je m'émerveille sur une sauce. Aujourd'hui, ça m'émeut. Vous savez, par la sauce, c'est comme un parfum. J'assimile les sauces au parfum. Des fois, vous allez rencontrer une personne et en fait, l'équilibre entre sa peau, son style et le parfum qu'elle porte, amène d'un seul coup, peut amener à un coup de froid, à un coup de foudre, à un coup de... Et la sauce, c'est tout ça dans une assiette. C'est exactement la même chose. Et ce coup de foudre, il est peut-être éphémère, il est à croiser entre une personne, vous allez dans un couloir comme ça, et d'un seul coup, boum, il se passe un coup de froid. C'est tout, tout amène à un sentiment émotionnel. Et comme on a eu avec une première rencontre avec son épouse, son compagnon, sa compagne, quelque chose qui on atteint par le biais de tous ces éléments une certaine perfection, même si elle n'existe pas dans ce beau monde. Mais vous voyez, l'équilibre pratiquement qui nous paraît le plus juste à soi-même, en fait. Parce que malgré tout, vous comprenez bien que notre art, s'il est un art, est des plus subjectifs.
Ah ouais, dis donc, vous êtes intarissable sur les sauces, en effet. Puis si on m'avait dit qu'on pouvait parler de sauces de cette façon-là, je n'y aurais pas cru. Mmh. Louis Jeudy.
Oui, bah, moi, je souscris totalement à ces propos. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la question de la transmission, l'importance de transmettre les sauces. Ce que dit en fait Arnaud, c'est que la sauce, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment. La sauce, comme le dit Jacques Maximin, qui est l'un des chefs que j'ai interrogé pour mon livre, c'est vraiment une alchimie. C'est pas de l'ordre. Certes, il y a des techniques, il y a des bases, mais en fait, le cuisinier, à travers la sauce, il est dans le tâtonnement, dans la recherche permanente, et c'est à travers la sauce et l'apprentissage de la sauce que le cuisinier forme son palais, sa capacité à entremêler les goûts de façon harmonieuse, d'où l'importance en fait de cette formation. Et je crois d'ailleurs que Yannick Aleno a prévu de lancer une école de la sauce bientôt en partenariat avec l'Institut Paul Bocuse dans ce sens.
Arnaud Donquel, on termine cette émission. Je voudrais quand même qu'on donne un certain nombre de petits trucs. Par exemple, de petits trucs plus simples que ce que vous aviez demandé aux candidats de Top Chef, puisque vous aviez fait un bouillon parfumé aux légumes, volailles et crustacés et un sabayon beurre de tête de homard. Mais là, je vais être beaucoup plus terre à terre. Vous allez nous proposer une sauce simplissime, vous nous avez dit, sauce vierge de palourde.
Oui, alors c'est une sauce, moi je l'appelle simplissime parce que on peut la faire alors avec des palourdes. Alors on est en Provence, donc on vous fait simplement des palourdes marinières que vous ouvrez, vous récupérez les langues, vous les séparez, vous récupérez le bouillon. Ce bouillon, vous le faites légèrement réduire, vous mettez un soupçon de gingembre ciselé, vous y incorporez une brunoise de tomates fraîches, des petites tomates cerises en petits quartiers. Un petit peu de citron confit ou de citron frais, selon ce que vous avez. Vous mettez un peu de marjolaine, des petits pignons de pin torréfiés, quelques olives noires, un peu d'huile d'olive. Et sur un simple poisson, vous êtes un petit peu dans une... entre la vierge, qu'on connaît, d'ailleurs que j'ai adoré dans le livre de Louis le début de la vierge, parce que on voit l'évolution d'une sauce qui s'appelle la sauce vierge, Louis, dans votre livre, et on arrive à la recette de la sauce vierge de Michel Guérard, jusqu'à celle finalement que beaucoup de gens connaissent en Provence, la vierge. Et donc je l'ai appelée vierge simplissime parce que c'est un mélange de sauce vierge comme on connaît un peu dans le sud, et un mélange de du gléré. La sauce du gléré, la fameuse sauce, le fumet monté au beurre avec la tomate fraîche.
Et, voilà. Et cette recette, nous l'avons mise sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, à la page, bien sûr, des bonnes choses. Peut-être, ça c'était la recette du chef 3 étoiles malgré tout. Oui. Louis Jeudy, vous m'avez dit, oulala, moi je serais plus simple. Ce qui me rassure un peu, une sauce bolognaise.
Voilà, une sauce bolognaise classique. Je pense que c'est important de rappeler que il y a les grands sauciers comme Arnaud, dont c'est le métier, les grands alchimistes de la cuisine. Et puis, il faut pas oublier qu'à la maison, on peut aussi se régaler et faire des sauces, comme par exemple une vraie sauce bolognaise avec ce qu'on appelle un mirepoix, c'est-à-dire carottes, céleri branche, oignons finement ciselés. On fait revenir ça avec la viande. Ensuite, on peut déglacer avec un petit peu de vin blanc. Puis on met le pomodoro de tomate, un petit peu d'eau. On laisse cuire 3 heures, c'est tout simple et c'est excellent.
Merci beaucoup Louis Jeudy. Sauce au pluriel, c'est votre livre publié aux Ateliers d'Argol. Merci beaucoup Arnaud Donquel d'avoir participé à cette émission, en plus à l'heure du coup de feu chez vous, puisqu'évidemment il est midi et demi, c'est vraiment l'heure de préparer la cuisine. Je renvoie tous nos auditeurs à toutes les informations que nous avons données ce midi sur la page des bonnes choses. Et je vous souhaite un bon week-end.